啊。
vous écoutez, Radio FMR, nous sommes le samedi 28 janvier 2012.
Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR, c'est l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le débat politique que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Ouah, regarde, ils ont oublié un bout de zèbre ici. Mais non, c'est un code barre, sortez-moi d'ici.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Dastrich. Et la participation exceptionnelle de JB. C'est le mien cette fois-ci. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le supplément week-end numéro 303 de Radio FMR. Déjà. Bonjour Thomas, j'espère que
salut.
Tu vas bien.
Salut Descritch, oui, très bien, parfait.
Bonjour aussi à nos hôtes qui sont les membres du jury du prix du Conseil Général des Jeunes de la Charente, puisque nous sommes en direct d'Angoulême pour à l'occasion bien évidemment du Festival International de la Bande Dessinée, dont la 39e édition a lieu en ce moment. Et donc, les membres du Conseil Général des Jeunes nous invitent et nous accueillent donc dans les locaux du Conseil Général. Donc bonjour et mille merci, nous sommes heureux donc de recevoir Chloé. Bonjour, n'hésite pas, il faut parler plus près du micro et sans rire.
Bonjour.
Voilà, c'est bien. Léa.
Bonjour.
Bonjour. Donc Baptiste. Baptiste qui
bonjour.
A fait la voix. Bonjour. Mathieu qui est au
bonjour.
Milieu. Bonjour. Et Eloi. Bonjour. Donc nous en sommes très heureux. Oui, il y a encore quelques petits réglages de son. Excusez-moi. Hein, c'est un petit peu difficile, mais ça va. On va y arriver. Thomas, je te prie donc d'expliquer pourquoi donc nous recevons ces jeunes et charmants
collégiens et femmes. Alors oui, donc pour la 4e année consécutive, le Conseil Général de la Charente s'associe à la rédaction d'actuabd.com pour élire le prix ActuaBD Conseil Général des Jeunes de Charente qui s'adresse donc à un public entre 12 et 15 ans pour élire un album de bande dessinée qui est sorti courant de l'année, ici en l'occurrence c'est l'année 2011, sans distinction de genre, d'auteur ni d'éditeur. Voilà. Et donc, nous sommes en présence de 5 jeunes élus du Conseil Général des Jeunes de Charente qui se sont portés candidats, portés volontaires pour faire partie de ce jury. Voilà. Et ils ont débattu ce matin pour élire l'album que nous dévoilons.
Ils se sont battus ?
Ouais, voilà, presque. Ouais, je sais pas, on va leur demander. Pour élire décider du lauréat de ce prix ActuaBD, mais nous en parlerons tout à l'heure.
Alors la première chose que je souhaiterais savoir, c'est comment vous vous êtes retrouvé élu à ce Conseil Général. Je sais pas qui a envie de se lancer. Le premier qui a bougé la main. Bah, voilà, allez Éloi, pour le coup.
Oui, donc on a tous posté notre candidature lors du dernier rassemblement. Et tout simplement un tirage au sort qui nous a désigné les uns après les autres.
D'accord.
Pour faire partie de ce jury.
D'accord, pour le jury lui-même. Mais voilà. En tant qu'élu du Conseil Général, c'est comment ça s'est passé? Quelle est la durée de votre mandat, par exemple?
La durée du mandat, c'est de 2 ans.
D'accord.
Donc, généralement pour soit les 4e, 3e, soit les 5e, 4e. Et donc on est élu donc justement par nos camarades dans nos collèges. Et c'est le représentant qui vient ici tous les 1 mois et demi. Pour discuter dans nos commissions et puis faire avancer entre guillemets les choses.
Et quand s'est passée cette élection et depuis combien de temps vous êtes élus tous là?
C'est notre 2e année. à tous. Donc ça s'est passé à la rentrée de l'année dernière, donc, rentrée 2010.
Et ça donc du coup cela fait donc un certain temps que vous avez pris des décisions. Quel est le type de commission, quel genre de décision justement vous êtes amené à prendre?
Qui veut prendre la parole?
Bonjour.
Bonjour Léa.
Moi je fais partie de la commission développement durable. Mmh. Et on a élu des affiches pour les mettre dans les collèges pour la sensibilisation des personnes.
Des personnes, donc ces affiches sur quel sujet en soi?
La production d'eau, enfin pour réduire.
Ah, pour économiser de l'eau.
Oui.
D'accord.
Okay. Et est-ce que tu t'occupes aussi des campagnes d'affichage pour le tri sélectif ou des choses comme ça aussi?
Non.
D'accord, donc c'est surtout pour l'économie d'eau alors.
Oui.
D'accord.
D'accord. Après, quelles sont les autres commissions pour lesquelles vous faites partie? Oui, vaut mieux éviter de bouger le micro une fois qu'il est posé, Mathieu, je te prie.
Moi, je suis en commission citoyenneté. Et pareil, on fait des sortes d'affiches. C'est sur les préjugés, nous. Mmh. Et on les distribue dans les collèges et c'est sous une forme de concours.
D'accord. Quel genre de préjugés sur ceux qui sont faibles en sport sont meilleurs en maths
Non, c'est la parité homme-femme.
D'accord.
C'est, je sais pas...
Alors, comment on fait pour arriver à faire une parité quand on est un nombre impair? Parce que là, vous êtes 5.
Non, on fait pas.
Bien répondu.
Il y a les deux filles en face qui pourraient se vexer mais qui rigolent, c'est mignon. Vous avez encore une chance, je dirais. Après, je ne sais pas, on va Chloé, quelle commission tu fais partie et quel type de décision t'intéresse?
Moi je fais partie de la commission communication. Donc dans notre commission on s'occupe de refaire l'habillage du site internet du Conseil Général des Jeunes. Et nous avons un projet, c'est de faire un quiz. Parce qu'en fait on a un film qui présente le Conseil Général des Jeunes.
Oui.
Et donc après on va montrer ce film à tous les collèges de la Charente. Et ensuite, il y aura un quiz sur Internet qui posera des questions sur ce film, qu'ils n'auront le droit de voir qu'une seule fois. Et par rapport à ceux qui ont donné le plus de bonnes réponses, il y aura des lots, comme des places pour le Futuroscope.
D'accord, donc en fait, c'est un peu pour voir s'ils sont réellement attentifs en classe et pour voir si c'est une bonne analyse, pour voir si les technologies modernes d'éducation plutôt que le tableau et la craie sont aussi efficaces que la vidéo.
Mais c'est surtout pour leur faire découvrir le Conseil Général, mais pour qu'ils en aient envie, parce que vu qu'à la fin il y aura un lot, on sait qu'ils vont participer, du coup ils vont regarder le DVD, du coup il y aura plus de personnes qui seront au courant de ce qui se passe au Conseil Général des Jeunes.
D'accord. Vas-y Thomas.
Oui, et toi Baptiste, la commission
Développement durable.
D'accord.
Et c'est sur le développement durable, puisqu'on a parlé des ressources comme l'eau, quelles sont...
Ouais, tu fais partie de la même commission que Léa, c'est ça? Vous
oui.
travaillez sur le
D'accord,
même projet
okay.
D'accord.
Mmh. Sur le type de décision que vous êtes amené à prendre, est-ce que vous êtes conseillé par justement les conseillers généraux élus normaux? Est-ce que justement ils vous conseillent de temps à autre, ou ils vous assistent, ou vous les avez jamais vus? Vous êtes là quand en fait ils sont dehors? Non mais faut pas opiner de la tête, c'est pas radiophonique, on n'entend pas.
Non, ils sont rarement là.
D'accord. On est dans une période de campagne électorale, au niveau des grands, pour la présidentielle.
Ah bah non, et puisque vous... ça fait 2 ans, donc eux aussi ils en auront une.
Oui, mais pour être élu, il a fallu que vous fassiez campagne. Comment s'est passée votre campagne à vous? Est-ce que ça a été très très vite, ou vous avez vraiment fait du lobbying pour voter pour moi, voter pour moi?
Alors en fait, fallait faire 3 projets, fallait les écrire sur une feuille, et les élèves venaient voir les différents projets, et après ils allaient voter.
Mmh. Ah d'accord, c'était vraiment sur des projets assez
Oui.
C'est intéressant.
Il y avait un projet développement durable, Europe, citoyenneté et communication.
D'accord.
Nous, ça s'est pas passé comme ça. On s'inscrit. Donc, on avait nos...
Non, non, ça va. C'est toi.
Continue, reprends. Excuse-moi, Mathieu.
Donc, on s'était inscrit. Mmh. Et puis après, ils ont mis sur un tableau nos photos et tous ceux qui étaient inscrits. Mmh. Et le jour du vote, ils nous avaient pas demandé nos projets. Enfin, souvent, personne ne savait ce que c'était, Conseil Général des Jeunes. Il y avait eu beaucoup de votants, mais on a quand même été élus. Ça s'est pas passé non plus comme dans les règles de l'art, quoi.
D'accord. Vous étiez déjà sensibilisé à ce qui existait avant de à ce qu'avaient fait les précédents mandataires.
Non, je savais même pas que ça existait avant qu'on me propose de le faire, moi.
D'accord. Bon, on t'a proposé.
Oui, on m'a proposé. J'ai été d'accord et puis ça s'est bien passé.
D'accord.
Ben moi dans mon collège ça s'est fait un peu différemment dans tous les autres. Mmh. En fait, c'est mon principal adjoint qui m'a proposé en fait un peu sur le tard. De faire partie du conseil général parce que en fait il y avait personne qui il y avait pas de gens entre guillemets qui pensaient très sérieux pour ce poste, donc il m'a proposé à moi, mais c'est vrai qu'avant qu'il m'en parle j'en avais pas vraiment entendu parler et donc on s'est pas donné la peine de faire une élection. Il m'a désigné moi comme entre guillemets titulaire et il m'a laissé le choix de choisir un suppléant. Donc j'ai choisi quelqu'un et ça s'est fait entre guillemets sans élection, sans campagne, mais on a dû faire nos projets, mais ça s'est pas décidé lors d'une élection et lors d'un vote.
Alors quel est l'usage du suppléant ? C'est celui qui vous prend les notes pendant les cours que vous séchez, parce que les sessions ont lieu en même temps que les cours ?
Non, il est là juste pour quand on peut pas assister aux réunions du conseil général, mais il nous remplace. Voilà.
D'accord.
Alors, est-ce que depuis que vous avez été élu, vous êtes tenu au courant des décisions qui avaient été prises par les commissions, les jeunes élus qui vous avaient précédé, notamment pour toutes les activités, même pour l'élection de ce prix actuel BD, Conseil Général des Jeunes, ou pas du tout ?
Pas du tout pour moi.
Pas du tout non plus pour moi.
Pas du tout non plus.
Non plus.
D'accord. D'un autre côté, donc on va parler un petit peu de la bande dessinée. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est une radio qui vient de Toulouse exprès pour le festival de la bande dessinée ? Est-ce que ça vous dit justement ce que représente Angoulême au niveau international et donc le département de la Charente ?
Pas tellement en fait.
Oui, c'est vrai que Toulouse, c'est qu'à 3 heures de route. Hein. C'est international, mais tu regardes, tu as un Belge devant toi qui est venu exprès.
On comprend pas, enfin... On n'entend pas beaucoup parler d'Angoulême dans les journaux, donc on se rend pas trop compte, quoi. Mmh. Voilà.
D'accord.
C'est vrai que le festival de la BD d'Angoulême, c'est une des principales fêtes qu'il y a ici. Hein. Mmh.
Mais je vois, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent en fait notre ville. Puisque des fois, je vois, je rencontre des gens sur des sites internet. Ils me demandent où j'habite. Quand je leur dis Angoulême, ils me demandent où c'est. Quand je leur dis, c'est la ville de la BD. Mais ils connaissent pas, je sais pas. C'est...
D'accord. J'en connaissais une autre, c'est entre deux villes, mais vous êtes trop mineur, vous n'avez pas le droit de boire, donc vous ne pouvez pas dire entre Bordeaux et Cognac.
Personnellement, il y a beaucoup... Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Angoulême, surtout pour le salon de la BD.
Mmh, d'accord. D'un autre côté, est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Est-ce que vous allez est-ce que vous regardez des séries télé ? Ou finalement, vous êtes des gens tout à fait sérieux et vous pensez d'abord à vos devoirs ?
Pas tellement.
Pas tellement que tu penses à tes devoirs ou pas tellement que tu vas au cinéma ?
Ah si, je vais souvent au cinéma.
Ça envoie là. Ça envoie. Vous êtes parti opposé, c'est ça ? Vous n'êtes pas du tout de la même couleur politique ? Je vois, oui. Point de vue donc bande dessinée, est-ce que déjà vos parents lisent de la bande dessinée ?
Mon père.
Oui, mon père aussi.
Mon père aussi.
Alors, moi, c'est moi qui ai lancé la famille dans la bande dessinée en fait.
D'accord. Ok. Et dans ces, du coup, est-ce que vous avez pioché dans les bandes dessinées de vos parents ? Est-ce que vous doutez qu'ils vous cachent quelques BD et autres ?
Non,
je pense pas non plus.
Non.
D'accord. Et est-ce que vous avez osé lire leurs BD ? Par quelle BD vous êtes venu en fait à la bande dessinée ?
Ben, moi, je suis plutôt dans le style BD comique. Donc j'ai été attiré par exemple par les BD de l'éditeur Bambou. Qui a fait Les Profs. Tout ça, c'est vraiment le style de BD que j'affectionne particulièrement. Et j'ai l'occasion de les prendre à mon père parce que c'est lui qui me les achète en fait.
Ah d'accord, ok.
Il les prend et je prends la suite pour les relire donc.
Ok.
Moi, je préfère les mangas, ça me plaît plus. C'est pas vraiment de la bande dessinée, mais.
Ah si.
Enfin.
Si, tout à fait. Pour nous, c'est la BD.
Je préfère ça. Enfin,
bon, mais quel genre de manga? Du gag manga, du manga de sport, de fight.
Oui, voilà, de fight.
Quel genre?
Je dis le nom.
Oui, tu peux y aller.
Je sais pas, moi, One Piece, Naruto, des trucs comme ça.
J'aime d'accord.
Bien. Moi, les BD comiques.
Bon. Quel genre justement?
Titeuf, des choses comme ça.
D'accord. Alors, les deux demoiselles, hein, désolé, vous êtes.
Non, moi, ça serait plus le manga justement. Et je me souviens, le premier manga que j'ai acheté, c'était avec une amie et ça s'appelait Blackbird.
Oui. Bon choix. Et toi?
Moi, je vois, je prends les BD de mon père des fois. C'est Gaston ou Léonard ou des choses dans ce genre. Et après, sinon, je prends les BD que j'offre à ma petite sœur, comme Les Nombrils, Les Profs, Titeuf, des choses dans ce genre.
Et sans trop dévoiler ce que vous avez pensé pour l'instant des albums qui avaient été présélectionnés, puisque vous avez fait un choix entre 5 albums, est-ce que vous vous doutiez qu'il y avait ce type de bande dessinée qui existait? Est-ce que vous en aviez déjà vu ou est-ce que ça vous a surpris par rapport au genre, si on a bien compris, qui ne correspondent pas trop aux albums dont il était question?
Moi, ça m'a surpris. Hein, parce que c'est pas des BD ordinaires. Quoi.
Moi, il y en a une particulièrement qui m'a surpris.
D'accord, ah, d'accord, ok.
Bon, on peut pas trop aller dans les détails.
On va pas y aller. Est-ce que du coup, justement, par le fait de ce que vous avez découvert par la lecture, ça vous donne envie soit de lire les autres albums de cette série-là, ou de vous intéresser justement à ce type de genre, puisqu'il y a un peu de tout, hein, y a du roman, de la fantasy.
Il y en a une ou deux, oui.
Toi, t'as... Oui, effectivement, oui. On voit le petit sourire, ouais. Je sais pas.
Je vais dire pareil. Il y en a certaines dont on a envie de connaître la suite, et puis d'autres, on va dire moins, qui nous ont moins attirés, parce que c'est
pas forcément notre style. Il y avait aussi des albums dont il ne s'agissait pas de séries aussi, ouais. donc...
Mais du coup, Eloi, est-ce que ça t'a touché certains genres qui ont été présentés, que tu as envie, justement, d'en lire d'autres
Il y a certains genres auxquels je suis plus réceptif, on va dire, que j'ai plus l'habitude de lire, donc c'est vrai que celles-là m'ont plus plu que des découvertes entre guillemets auxquelles j'ai moins accroché.
D'accord. Je sais pas, les demoiselles, Léa, pour commencer.
Bien, il y en a deux ou trois dont j'aurais bien envie de lire la suite, et il y en a d'autres non.
D'accord, Chloé.
Moi, il y en a certaines que oui, j'ai envie de lire la suite, voire une que j'ai pleuré en la lisant. Et oui, après,
carrément.
Et après, il y en a d'autres. Non, je préfère rester là.
Sur un thème plus général, donc on a vu quels étaient vos goûts en bande dessinée, mais peut-être vous avez des goûts qui sont différents au cinéma quand vous allez voir un film.
Ça peut être aussi un film d'animation.
Moi, j'ai pas vraiment de goût. Quand je vois un film qui me tape à l'œil, j'y vais. J'ai pas vraiment de. Ça peut être tout genre.
D'accord. Qui te tape dans l'œil, c'est-à-dire c'est sur l'affiche, c'est sur la bande-annonce, c'est sur les critiques que tu entends.
Un peu sur les trois, quoi. Je me renseigne souvent avant d'aller voir un film pour pas trop gâcher l'argent.
Oui, ça se comprend tout à fait, c'est bien. Au moins, tu vas aller voir au cinéma.
Moi, mon style de film, ça serait plutôt horreur. J'aime beaucoup me faire peur, mais j'aime beaucoup aussi les histoires fantastiques ou d'amour.
Alors, dans ce cas-là, pour les films d'horreur, comment tu fais si tu n'en as pas l'âge? Est-ce que tu mens à la caissière?
Non, j'attends que le DVD sorte et je l'achète.
C'est plus simple.
Alors donc, il y a possibilité de ruser, alors soit parce que tu passes l'âge des 16 ans au moment du DVD qui est sorti, soit parce que quand tu achètes le DVD, on ne te demande pas ton âge.
C'est peut-être pas toi qui achètes le DVD surtout.
Oui, voilà.
D'accord.
Réfléchis un peu.
Après, je ne sais pas, Chloé.
Moi, je veux voir tout genre de films au cinéma. C'est... Après, ça dépend si ça plaît aux gens avec qui je vais le voir ou pas, parce que si ça leur plaît pas, je vais regarder autre chose.
Ok, bah oui, bien sûr. Mathieu, peut-être là-dessus, tes goûts, ils évoluent aussi sur le cinéma et tout ça.
Non, pas. Enfin, ça accroche ou ça accroche pas avec moi, quoi.
Ok.
Oui, tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait de justement faire aller au cinéma avec vos amis. Est-ce que là, dans les bandes dessinées que vous avez découvertes, vous avez envie de les faire partager à vos camarades de votre classe? Est-ce qu'ils savent déjà que vous faites partie d'un jury pour élire des bandes dessinées? Est-ce qu'ils vous ont réclamé? Ah, t'as reçu 5 albums, est-ce qu'on peut les voir ou pas?
Ben, moi j'ai une amie qui vient chez moi et je sais qu'à chaque fois que je recevais une BD, elle a lisé. Et on a les mêmes goûts, donc il y a certaines BD qu'elle a pas trop aimées et que oui. Donc voilà.
Et les autres, est-ce que vous avez prévu d'arriver dans la classe avec les 5 albums? Servez-vous?
Pas du tout.
D'accord, vous n'êtes pas partageur en fait.
Non.
D'accord, vous avez bien raison.
Ouais. Alors, je vous donne le truc, les BD que vous aimez vraiment, que vous appréciez, etc., les prêtez jamais. Vraiment. Après, vous me direz merci. On va parler de choses et bien d'autres. On va faire une petite coupure pour profiter un petit peu, pour souffler un petit peu. Vous allez annoncer tout à l'heure la remise. Vous allez annoncer qui est le lauréat d'une manière tout à fait aussi officielle. Moi, je ne suis absolument pas au courant de toute façon. Donc, mesdames les attachées de presse, arrêtez de me téléphoner sans cesse, c'est pas la peine. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, vous écoutez aussi L'Onde Miroir, la cyberpsychoradio qui retransmet donc ce programme. Et donc, nous sommes au Conseil Général des Jeunes avec nos amis d'ActuABD aussi. Green Day, extrait de la bande originale de Austin Powers de Espionage. We'll be right back. Oui, parce qu'on discute entre nous et avec le jury, donc après tout, pourquoi pas. On a aussi Didier Passamonique là qui s'occupe en même temps, parce qu'il y a deux expos à côté. Je ne sais pas si vous les avez vus dans les locaux du Conseil général de la Charente. Il y a deux expos, une consacrée à la bande dessinée arménienne et une autre consacrée à la bande dessinée turque. Ça fait un petit peu collusion d'actualité, puisque c'est vrai qu'il y a une loi qui a été passée condamnant la négation de génocide, et plus ou moins directement c'est la Turquie qui est visée. Donc je ne sais pas si vous êtes allé voir justement ces expos là, voir si elles vous intéressent, si vous avez découvert des choses de ce côté là
Je les ai trouvées bien. J'ai bien aimé celle sur la Turquie. Y a des bandes dessinées qui sont sympas, dont une que j'aimerais bien lire.
D'accord. En turc?
Non, en français si possible.
Oui, ça j'en doute pas. C'est sympa, Léa. Chloé?
Bah, moi je suis allée les voir, mais moi j'ai rien compris, c'était pas en français.
Mais sinon j'ai bien. Mais par l'image, y a pas une émotion.
J'ai bien aimé les dessins. C'était.
C'était quoi? C'était?
Bah, c'était bien dessiné.
C'est bien, c'est sympa, un vrai dessinateur, pas tout, hein. Ils sont censés être leur métier. Je sais pas s'il y en a, si y a l'un de vous trois, Mathieu, je te vois prêt à partir.
Moi, j'ai trouvé que la bande dessinée de Spurk, c'était un graphisme beaucoup plus joli. Enfin, après, c'est un genre, mais je trouvais que la bande dessinée arménienne, c'est plutôt. Enfin, c'est moins dessiné, quoi, c'est moins impliqué.
C'est vrai que c'est pas exactement. Enfin, je sais pas si tu as lu les panneaux, les commentaires qu'il y avait sur les panneaux, mais en fait, la première BD a été publiée en Arménie en 2005. Donc,
oui, c'est pas le même.
Ils ont pas encore la même culture de ce côté-là. Du moins, en tout cas, je le suppose. Hein. Je fais un travail de journaliste, je ne sais pas de quoi je parle. Baptiste.
Les deux sont bien.
Les deux sont bien. Soit toi, ça t'a plu. Éloi, je sais pas si tu as allé voir.
J'ai vu les deux comme tout le monde. Mais certains dessins sont plus fins, on va dire, que les autres.
Et vous, quel a été, puisque quand même, donc, vous êtes des élus, vous rendez des décisions politiques, que vous faites voter. D'ailleurs, vous en avez une tout à l'heure, hein, que vous avez voté, que vous allez annoncer sur cette antenne de décisions politiques. Sur cette loi vis-à-vis du génocide et tout le... Utiliser un mot, pataquès, je ne sais pas si vous connaissez, donc tout le bazar que cela met justement de ce côté-là entre la France et la Turquie, est-ce que vous estimez que cette loi, elle apporte vraiment quelque chose entre la Turquie et l'Arménie ou pas du tout?
Mais c'est quoi le génocide?
C'est une extermination.
C'est l'extermination d'un peuple sur les critères raciaux. Principalement. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant la première guerre mondiale, et ça je cite de tête, et Laurent Ménikian, commissaire qui est de l'expo arménienne et qui après va réécouter, va sûrement me bombarder de coups de téléphone en me disant retourne à l'école, où les Turcs ont déplacé et tué des villages entiers arméniens. Hein, donc c'était assez important.
Moi, je trouve que la France a raison de faire ça contre les Turcs.
Est-ce que tu penses que c'est susceptible, franchement, de changer la politique des Turcs
Non, bah, ça fera pas revenir en arrière, mais faut pas que ça se reproduise. Donc, une loi contre, ça serait mieux.
D'accord. Pour vous, c'est carré de ce côté-là. C'est une bonne décision. Par ailleurs, est-ce que, pour en revenir à des choses un petit peu plus gaies, est-ce que vous êtes allé voir les autres expositions ou est-ce que vous aviez une idée de choses que vous souhaitez voir pendant cette édition du festival? Puisqu'après tout, tout à l'heure, vous avez quand même un badge pour au moins la journée, pour visiter le salon.
Moi, je souhaitais voir la bulle Mangazi, parce que... J'affectionne les mangas, donc, mais j'y ai été parce qu'avec le collège, j'y ai déjà été jeudi, et j'ai trouvé cette bulle sympa. Il y avait des bonnes animations. Et...
Oui, l'exposition où tu rentres par la bouche, le flipbook qu'on te fait faire, déguisé en Naruto et tout ça, quoi.
Ouais, voilà, j'ai bien aimé.
Il y a certaines planches qui sont pas pour tout le public.
Attends, excuse-moi Thomas, oui, mais il y avait un truc à signaler effectivement de l'expo d'Erwan,
oui,
le berger.
Certaines planches ne sont pas à montrer devant à tous les yeux. Voilà,
oui, c'est pour public averti.
Alors on va devoir juste activer un petit peu puisqu'on nous signale en régie que la surprise est arrivée.
Voilà, Didier Passamonique, donc d'Actua BD, qui est présent. Bah vas-y, n'hésite pas à le sortir.
Alors Didier, juste parce qu'on
sors-le du pied, sera plus simple. Voilà.
On nous a posé la question, Didier, tout à l'heure, si des gens pouvaient nous suivre en direct et commenter. Alors nous avons des commentaires en tweet. De gens qui nous répondent en zorglang.
Ah oui, c'est des gens sophistiqués qui ont remarqué que Spirou était dans la sélection et que Zorglub, en fait, à mon avis, c'est le fan club de Zorglub.
J'avais pas fait le rapprochement.
Ouais, à mon avis, c'est le fan club de Zorglub. Zorglub a un lobby très puissant de Zorglom qui envoie des tweets pour essayer d'influencer le jury.
Je pense que c'est peut-être plus que probable. Didier, puisque en plus c'est Didier Passamonique qui donc s'occupe de la rédaction d'Actua BD, c'est aussi lui qui est le commissaire de l'exposition sur la bande dessinée turque, donc qui est juste à une pièce d'ici. Voilà.
Alors c'est pas la bande dessinée turque, c'est la bande dessinée, c'est une exposition qui s'appelle Rencontres sans frontières, et c'est turc et arménien. Et donc vous avez tous entendu parler ces jours-ci des problèmes entre la
France. Oui, on en a parlé quand tu n'étais pas là tout à l'heure.
Et la France, et donc oui, effectivement, j'étais commissaire et ça a été chaud. Hein.
C'était
chaud parce que en pleine crise politique comme ça, il faut empêcher que les têtes s'emballent et s'affolent. Il faut calmer tout le monde. Et puis l'inauguration s'est très bien passée, il n'y a pas eu d'attentat, tout va bien, tout le monde est content.
Voilà. Oui, on est toujours là.
Ceci pour dire que parfois les médias, il faut un peu s'en méfier, il y a un effet de loupe dans les médias qui fait que ça hystérise pas mal les gens et les idées. Il faut toujours être un peu calme par rapport aux idées qui s'expriment, surtout quand il s'agit de politique.
Alors, puisque nous avons donc celui qui dirige, je veux dire, Actua BD, et qui donc, puisque en fait, vous avez eu 5 bouquins qui ont été préchoisis par la rédaction d'Actua BD, et sur lequel c'est à vous de décider qui est en fait le résélu. Est-ce que vous avez une question à poser à monsieur Passamonique? Est-ce que déjà vous êtes allé voir le site Actua BD?
Est-ce que le choix a été dur?
Alors, il était très dur parce que, en fait, il y a 5000 nouvelles BD qui paraissent chaque année. Alors, c'est pour ça qu'on fait le choix. Parce que si on doit vous envoyer les 5000 BD, vous n'étudiez plus.
Ça rend bien.
Donc, je suis sûr que ça vous ferait plaisir d'avoir les 5000 BD, mais.
J'ai pas une armoire assez grande.
Ouais, voilà. Vous imaginez chaque année 5000 BD qui sortent. Donc, on a un peu déblayé le terrain. Et comme on s'est dit que plus que 5 BD, parce qu'en plus, il faut que vous fassiez votre devoir aussi. Donc, plus que, on s'est dit que 5 BD, c'était un bon nombre pour vous faire lire. Et donc, alors, les choix qu'on a faits ont été, on s'est dit d'abord, on a écarté toutes les BD qui sont pas de votre âge. Les BD pour adultes, les BD érotiques, ou les BD pour les bébés, quoi. Donc ça on les a écartés. Et puis après, on a simplement essayé de trouver celles qui nous semblaient la meilleure qualité possible dans cette année par rapport à la tranche d'âge qui est la vôtre. Et c'est vrai aussi que qu'on a fait des choix très diversifiés, c'est-à-dire qu'on a pris des choses qui étaient très commerciales, très populaires, Spirou tout le monde connaît, et à côté de ça, on a fait quelques choix qui étaient un petit peu moins connus, pour que aussi vous ayez le plaisir de la découverte.
Il faut préciser, Didier, que ce n'est pas un choix totalement délibéré de notre part. Il y a aussi la rédaction d'Actua BD.
Voilà.
On a dû défendre notre beefsteak. Chacun avait ses coups de cœur. C'est surtout des coups de cœur à la base. Et on n'a pas du tout réfléchi en termes d'éditeur ou savoir si c'est un commercial. Donc il faut donner autre chose.
Le travail que vous avez fait là pour décider du gagnant, ce débat que vous avez eu, nous, on l'a eu. Sauf qu'on est 30. Hein.
Voilà.
On est 30 rédacteurs actuellement.
Qui a une deuxième question peut-être pour en profiter? Oui, vas-y, Éloi.
Moi j'aurais aimé savoir pourquoi il n'y a pas une manga dedans, comme on dit que c'est de la BD quand même. On aurait pu en avoir un exemplaire au moins.
Très très bonne question.
C'est une bonne question parce que.
Toi c'est manga, c'est pas comics.
Et alors c'est intéressant, il dit une manga.
Oui, ça fera plaisir à.
Ça fera plaisir aux puristes, parce que les puristes disent une manga, et tout le monde dit des mangas au masculin.
On va pas revenir, il y a eu une bataille dans cette émission d'une heure sur le ou la manga.
C'est... D'accord. Mais tu remarqueras qu'on a vraiment un jury pointu cette année. Non, alors pourquoi? Parce que simplement, on a trouvé que cette année, les mangas étaient assez faibles. Je parle des nouveautés, hein, donc. Parce qu'on va pas évidemment sélectionner cette année le 34e volume de Naruto ou Dragon Ball qui est paru il y a 10 ans, donc ou même One Piece, c'est pas des découvertes. Et on a trouvé que cette année il y avait pas grand chose qui sortait du lot. Voilà pourquoi on a les comics non plus. Il y a pas de BD américaine qu'on a choisi pour les mêmes raisons.
Une prochaine fois.
Une prochaine fois, oui. Il y a eu des années précédentes où il y avait des mangas et des. En même temps, la bande dessinée franco-belge est assez riche. Puis vous remarquerez que dans les auteurs que vous avez choisis, parmi lesquels vous devez choisir, il y a un Mexicain et un Russe qui dessine à partir d'une création d'un auteur polonais. Donc on n'est pas resté très très franco-belge et vous non plus d'ailleurs, si, mais je ne vais pas dévoiler le.
On n'a rien à dire parce que peut-être que dans ce cas-là, autant que ce soit à eux d'annoncer officiellement leur décision.
C'est à vous.
Tant qu'il est. Vous devez proclamer
qui est président de jury. Il y a eu un président de jury, quelqu'un.
Non.
Alors, ce que nous vous proposons, ça marche pas mal dans chaque édition, c'est que vous le disiez ensemble.
Ok.
Alors, le vainqueur du prix Actua BD 2012 est.
Les Mondes de Torgal.
Bravo!
Voilà. Alors, les Mondes de Torgal de Surchenko et Yann. Torgal est un personnage qui a été créé par. Grégor Rosinski, qui est un artiste polonais, et vous savez quoi?
Non.
Eh bien, il est là.
Bravo.
Grégor Rosinski.
Bravo.
Va entrer dans le studio.
Il arrive, il est.
Ah, on nous explique en régie qu'il n'est pas encore tout à fait là, donc, mais il est là, il va arriver dans quelques secondes, dans quelques minutes. On peut peut-être vous poser la question. Non, on va parler de Torgal. Mais alors, à côté du prix Actua BD, Conseil Général des Jeunes, vous avez eu un coup de cœur. Donc, il y a une mention coup de cœur. Et qui a eu la mention coup de cœur cette année?
C'est
Doomboy.
Doomboy.
Bravo.
Doomboy de Tony Sandoval. Vous savez que Tony Sandoval est un auteur mexicain. Eh bien, vous savez quoi? Il est là. Il est là, ils vont nous rejoindre dans quelques secondes. Et d'abord, on fait entrer dans le studio Grégor Rosinski, qui est le créateur de Torgal. Je ne sais pas si vous imaginez la chance...
Suivi de très très près par Tony Sandoval qui le talonne.
Voilà. Suivi donc de Tony Sandoval, le créateur de Doomboy. Et la première chose qu'on va faire peut-être, Tony est en train de s'asseoir, Grégor, tout va bien? Tu veux boire quelque chose?
Non, alors dans ce cas,
il est sobre, Grégor. Hein.
Dans ce cas-là, le temps que tout le monde s'installe. Dans ce cas-là, le temps que tout le monde s'installe, je propose qu'on fasse une petite interruption musicale déjà pour que on soit relativement tranquille et bien placé. Donc vous êtes sur FMR 89.1 MHz, vous êtes sur l'onde miroir qui retransmet. Nous sommes donc en direct du Conseil Général de la Charente avec donc les membres du jury du Conseil Général des Jeunes de la Charente et d'Actua BD. Donc les auteurs, tout à l'heure, on prend un petit peu de temps déjà pour que ils puissent se placer. Le temps de la mise en place encore. Extrait de la bande son du gendarme à New York. Les garçons sont gentils.
Quand je suis loin de mon pays, ils font tout pour me plaire. Que ce soit John ou Pierre, les garçons sont gentils. Au garde à vous ou à genoux, chacun à sa manière efface les frontières entre mon cœur et lui. Dans la ville immense où je me sens perdue, il m'emmène visiter les plus beaux musées, les églises et les rues. Et le soir me font danser, 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 danser. Quand je suis loin de mon pays, je n'ai pas de problème. Quand ils croient qu'on les aime, les garçons sont gentils. Dans la ville immense où je me sens perdue, ils m'emmènent visiter les plus beaux musées, les églises et les rues. Et le soir me font danser, 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 danser. Quand je suis loin de mon pays, je n'ai pas de problème. Quand ils croient qu'on les aime, les garçons sont gentils. Les garçons sont gentils.
Et il s'agissait donc de Geneviève Grade dans la bande son donc du Gendarme à New York, et nous sommes de retour donc avec les membres du prix du Conseil Général des Jeunes et donc les deux lauréats, à savoir le créateur de la série qui a eu donc le prix et le dessinateur du prix Coup de cœur.
Alors, il faut donc préciser que le Torgal qui a eu le prix s'appelle c'est une série spin-off qui s'appelle c'est une série pas oui c'est vrai en français
Didier prends le micro en main s'il te plaît, ça sera plus simple.
D'accord, donc c'est une série parallèle qui s'appelle Les Mondes de Torgal et dont les dessinateurs et les scénaristes sont Yann et Surchenko. Et en fait, Yann est à Bruxelles en ce moment. Il est à Bruxelles en ce moment. Il n'a pas pu venir. Surchenko est russe et a encore un peu de chemin à faire avant de connaître le français. Et donc c'est pour ça que qu'on t'a fait venir d'abord parce que t'es vraiment le créateur de Torgal, qui est une série qui a un très très grand succès. Combien d'albums ont été vendus depuis la création?
C'est difficile à dire, mais je préfère de ne pas dire le chiffre.
Mais ça se compte en millions quand même.
Ah oui, tout à fait.
Donc, c'est une des plus grandes séries de bandes dessinées publiées en 19 langues. Alors, comment ça s'est passé? Comment s'est créé cette... comment tu as passé la main, au fond, sur les séries parallèles de Torgal? Est-ce que quelque part, tu n'as pas l'impression de confier ton enfant à quelqu'un d'autre?
Bah, c'est bien, la bonne main, c'est comme... c'est très bien, mais je suis content parce que je n'ai aucune inquiétude. Au contraire, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai créé cette... j'ai réussi de faire le monde de Torgal, que ce n'était pas facile. Tout d'abord, quand j'ai changé le style, j'ai commencé à peindre, il y a certains des lecteurs de l'ancienne époque qui se sentaient trahis, trompés, parce qu'ils disent « Non, Grégoire, Ozinski, ce n'est plus le même. On va abandonner la série. Hein. Laissez tomber, ce n'est plus le même. » Et oui, mais comme ça, avec les dessinateurs comme Giulio De Vita, qui fait série parallèle Chris de Valnor, et Roman Surchenko, vraiment un prodige absolu. Il continue l'univers de Torgal dans le monde d'un style traditionnel. Et comme ça, je peux me consacrer à l'expérimentation, de faire des laboratoires, un peu dans la technique, la matière, la peinture. Comme ça, tout le monde est content. Les lecteurs sont contents parce qu'ils découvrent, grâce à Surchenko et Devita, ils redécouvrent les Rosinski de certaines époques, de l'âge d'or de Torgal, qui était l'année des Jean Vanham et tous ces titres mythiques comme Au-delà des ombres, comme Les Archers. Et voilà, tout va bien.
Et là ça te fait plaisir que la série parallèle ait un prix indépendamment de toi?
Oui, c'est génial. Pour moi, c'est une nouvelle qui a tombé tout à l'heure. Je me suis presque évanoui. Parce que je me souviens, quand j'ai reçu un premier prix, j'étais en Pologne. C'est comme Roman qui est dans un petit village quelque part à Russie profonde. Et ce prix, moi, j'ai reçu ça à Varsovie, quand il n'y avait encore aucun album. C'était en 79. Et le premier album est sorti à 80. Et ça tombait sur moi, c'était pris à Grand Prix Saint-Michel. Et puis l'album n'est pas encore publié, l'histoire n'est pas encore publiée dans l'album, j'étais en tournée Tintin à l'époque. Et je me souviens, c'est ce que j'ai ressenti, parce que c'était bon, la première prise, c'est comme la première amour, c'est le plus intense qu'on peut s'imaginer.
J'aurais juste d'abord une question à poser, mais c'est aux membres du jury. Vous avez pris une décision politique, maintenant vous êtes face aux conséquences de votre décision. C'est-à-dire que non seulement vous allez remettre le trophée aux auteurs, mais vous les avez devant vous. Alors Primo, qu'est-ce que ça vous fait maintenant que vous savez donc que Rosinski est quelqu'un d'extrêmement célèbre et que vous l'avez récompensé en fait par une décision politique?
Oula, il n'y a plus personne qui parle.
Il n'y a plus personne. Pourtant, c'était bien parti.
Alors, ils étaient plus bavards tout à l'heure.
Oui, oui. Je crois qu'ils sont un peu. Rosinski, c'est. Ça fait depuis combien de temps, en fait, que Torgal existe? 77 à peu près, ouais.
Oui.
Oui. Maintenant, des jeunes encore trouvent cette série formidable. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, déjà?
Je pense que la série était conçue depuis le début comme une série familiale, une série pour toutes les hors des générations. Donc ça c'est toujours valable. N'importe quelle politique change, le gouvernement change, mais il y a toujours les bibliothèques dans les maisons ne changent pas. Il y a toujours le même livre. Et puis quand les parents n'ont aucun inquiétude. Et de laisser regarder ses enfants ces trésors d'antan, de l'époque quand il avait l'âge de ses enfants. Parce que c'est la saga familiale. On fait très attention de ne pas faire quelque chose d'irresponsable. Il y a toujours des messages quelque part. Pour moi, c'était facile parce que moi, j'ai vécu quand même 40 ans dans l'atmosphère où c'est autocensuré. Autocensure, pour moi, je savais très bien ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
Parce que, en fait, pour préciser aux auditeurs, tu étais dans un pays communiste qui censurait la presse et la création.
C'était pays communiste en communiste. On voit en même temps qu'est-ce qui se passe.
C'était
communiste de cette époque. Il n'y a plus.
Alors, Éloi, pourquoi vous avez choisi cet album?
Déjà parce que l'histoire est connue, donc on savait à peu près à quoi s'attendre. Et en même temps, parce que c'est toujours aussi bien qu'avant, l'histoire est super. Et les dessins et le graphisme sont juste magnifiques. Donc pour nous, ça a été une évidence de la choisir, celle-là. On était à peu près tous unanimes dessus.
C'est vrai que moi, les dessins aussi m'ont ébloui. Enfin, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, rien que pour les dessins, je vais le mettre en avant parce que ils sont magnifiques, les dessins.
Moi, sans avoir lu les premiers livres... j'ai tout de suite compris l'histoire et elle m'a fascinée, je l'ai trouvée magnifique.
Tout est bien dans ce livre.
Tout transmettre à Romain sur jeune couple, c'est à lui, c'est Fleur qui vous a envoyé.
Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans l'histoire? C'est parce que c'est un personnage un peu rebelle qui vit avec les loups. Qu'est-ce qui vous a semblé vraiment attachant dans cette histoire-là?
L'amitié qu'elle a avec la louve, qui la protège quand l'autre louve attaque.
Qu'est-ce que vous a touché le plus? Évidemment, ça joue ensemble, dessin et l'histoire. Mais est-ce que c'est l'histoire ou l'histoire, c'est le dessin que vous avez considéré comme le support pour la belle histoire, ou où le dessin était tellement spectaculaire que l'histoire était un peu au service des dessins?
Voilà, moi je pense que c'était l'histoire qui était au service des dessins, parce que les dessins, ils ont donné un plus à l'histoire qui a fait encore plus d'émouvant. Enfin, c'est encore plus émouvant, quoi, ça.
Je pense aussi, puisqu'il n'y a pas uniquement qu'un prix, il y a aussi un coup de cœur qui est présent. Donc, la question, c'est comment vous êtes... Au jury, donc je vais d'abord poser la question, Tony, excuse-moi, comment vous êtes décidé pour un coup de cœur et pourquoi cet album-là? Pourquoi Doom Boy?
La morale, il y a une très belle morale.
C'est quoi, se dire quoi la morale? C'est quelle morale?
L'histoire, ce que veulent faire passer les dessins.
Parce que d'abord, ce qui serait bien pour nos auditeurs qui n'ont pas lu l'histoire, ça raconte quoi en fait Doom Boy?
Un garçon qui perd sa petite amie, donc il devient très triste. Et il y a un dessin qui le montre avec un trou dans le ventre, c'est-à-dire que comme plus il devient triste, plus il va perdre de sa personnalité, si je puis dire.
Alors, tout à l'heure, tu me disais que ça t'avait fait pleurer, Doom Boy.
Bah oui, c'est vrai, ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé que c'était vraiment très triste parce qu'il avait perdu sa copine et je trouve ça horrible quoi. Mmh. Et puis voilà, et après la suite dans l'histoire, comme quoi il y a l'autre garçon qui est en fait jaloux de lui et donc il veut le taper et donc l'autre il ne sort plus de chez lui. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça. Je sais pas, rester enfermé pour la peur des autres, je sais pas. C'est...
Alors, finalement, nous avons avec nous Tony Sandoval, l'auteur de Doom Boy. Tony, comment t'es venu l'idée de cette histoire ?
Je joue avec l'idée de Doom Boy depuis longtemps. Je l'ai fait au début juste pour m'amuser, mais. J'ai fait des petites bandes dessinées en mon carnet de croquis. Et c'est un truc juste pour rencontrer des choses que j'ai vues quand j'étais jeune. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont presque autobiographiques. Et oui, il y a aussi des amis qui sont morts quand j'étais jeune. Et des amis, des potes qui sont gays, qui te les dit, je suis bien peur d'être gay, qui te les dit, comment est-ce que tu vas réactionner avec ça? Et la jalousie, voilà. Et surtout, la aventure que j'avais avec mon frère, on était jeunes. Et voilà, quoi. C'est un petit peu la vie.
Alors, c'est une histoire qui parle de radio. Est-ce que vous, justement, ça vous a donné envie d'aller chercher comme ça dans d'autres radios, écouter autre chose? Je pose la question au membre du jury.
Bah c'est vrai de dire qu'il découvre vraiment, vraiment tout à fait au hasard, plein de gens découvrent Doom Boy, alors qu'en fait lui, même au départ, ne sait pas que ce qu'il joue est retransmis. C'est vrai qu'on se dit que certaines fois, on pourrait faire des découvertes ahurissantes, juste comme ça, en passant d'une radio à une autre et en tombant par hasard sur quelque chose de fantastique.
Et il y a un parallèle avec le bouquin ? Vous avez ouvert le bouquin et vous êtes vous aussi tombé sur quelque chose de fantastique.
Oui, moi je m'attendais pas du tout à ça, une histoire aussi triste et émouvante. Mmh.
Juste une question par rapport à la technique. D'après vous, c'est fait avec quel type de peinture, la couleur ?
On pose la question au jury. Ils ont eu l'album entre les mains, ils ont eu le plaisir de juger aussi du dessin.
J'irais de la peinture comme pour les tableaux.
Peinture à l'huile,
l'aquarelle, moi.
Bah, vas-y.
En fait, les couleurs sont tout numériques.
Voilà.
C'est bien fait, hein.
Oh, merci. Tout ce que j'adore, de faire des travaux le plus organique possible. Et je suis tombé sur cette logiciel, ça dit en français, et qui m'a permis de travailler très organique, presque comme les aquarelles réelles. Donc, pourquoi je l'ai fait ça? Je préfère les aquarelles, les normales, la technique traditionnelle, mais c'est le temps. Donc, à Dumbo, je voudrais raconter une histoire. Et c'est pour ça que je dis, je vais dessiner toutes les planches que l'histoire me demande. Et pour ça, il sera beaucoup. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais une technique le plus minimaliste et le plus pratique pour moi. Parce que pour moi, c'était le plus important, c'est de raconter l'histoire.
Alors, on a deux auteurs qui sont face à face, qui sont deux auteurs talentueux, récompensés par un jury. Est-ce que, du coup, les auteurs vont avoir envie de lire l'ouvrage de l'autre ?
Si ce n'est pas déjà fait.
Si ce n'est pas déjà fait.
Mais c'est pour ça que j'ai dit à coup, parce que je voulais voir absolument ça. Et ce n'est pas exactement, c'était pas un bon terme parce qu'on n'est pas, moi je suis pas un auteur de ça.
Il n'est pas l'auteur de cet organe-là en particulier.
Mais les dessins, non.
Mais l'univers, c'est toi, la bande dessinée, c'est pas seulement un dessin et un texte, c'est un univers aussi.
Mais c'est l'univers. Ouais. Mais pour cet album-là, ouais, particulièrement, c'est Roman qui mérite absolument. Je suis ravi pour lui. Bien sûr.
Alors, est-ce que tu connaissais le travail de Tony Sandoval ?
Non. Non, c'est la première fois que j'ai vraiment vraiment. Et puis, pour cette raison que je ne suis pas, c'est impossible de suivre tout ce qui se passe actuellement dans le monde de la bande dessinée. Il y a 5000 combien ?
5000 bandes dessinées qui sortent chaque année.
Combien ? Parce que ce n'est pas tout.
5600.
Voilà. Donc c'est impossible vraiment d'être au courant de tout ce qui se passe. Moi, j'essaye, mais quand je vis dans un petit village en montagne suisse, donc il n'y a pas même librairie là-bas.
En général, la production actuelle, quand tu tombes dessus par hasard, est-ce qu'elle t'intéresse ou tu découvres des choses chaque fois intéressantes ou bien tu as l'impression que on reproduit toujours un peu la même chose?
J'ai cette impression de temps en temps, c'est vrai. Mais en plus, je pense que je ne sais pas comment mon collègue voit cette situation. Mais si on est créateur, on n'a pas beaucoup de temps de regarder les autres. Et ça, il y a mauvaise chose aussi. Regardez, pour les deux raisons pour lesquelles c'est plutôt déconseillé. Une chose, de ne pas. C'est une chose mauvaise qui nous gêne. Et c'est très difficile de savoir dans ce nombre de titres actuels ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et quand il y a 40 ans, quelque chose vraiment magnifique, on risque de se trop inspirer. Alors ça trouble aussi notre propre créativité, notre propre vision des choses. Donc c'est mieux, la meilleure solution de ne rien regarder, de lire les livres, lire les livres sans illustration, même sans aucune image.
Il est 13h sur Radio FMR, c'est le Supplément Week-end. Donc on retourne la question du coup à Tony Sandoval.
Si, oui, bien sûr, je connais le travail de monsieur. Je crois que c'est une expo au Salon des Livres. Je me rappelle à quelle édition qu'il y avait une expo énorme de vous. Et après, j'étais à Warszawa et je savais que je viens de savoir que vous étiez polonais et que c'était très célèbre là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que votre travail, parce que comme je viens de Mexique, pour moi, Torgal, ça n'existe pas. Donc je suis arrivé en France et après, je viens de savoir. Les BD plus anciens, parce que comme j'y arrive, il avait des trucs neufs, c'est normal. Mais quand j'étais en Pologne, c'est que je trouvais qu'il avait beaucoup de Torgal partout. Donc je me demandais pourquoi. Il me dit parce qu'il est dessinateur, il est un dessinateur, il est polonais. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est ce que je viens de découvrir, mon travail.
Et est-ce qu'il y a Tony Sandoval partout au Mexique?
Non.
trop jeune encore. Alors, on va.
C'est vrai que au Mexique, la production de bande dessinée, à part les comics, il y a pas vraiment beaucoup de sortes. Il y a pratiquement pas. À part dans les Fayucas, mais je suis tombé sur des trucs un petit peu bizarres. C'est pour donner une idée aux membres du jury, c'est supermarché clandestin. Hein, voilà, c'est ce qui existe au Mexique. C'est un truc qu'on connaît pas en France, heureusement.
Parce qu'au Mexique, on avait un problème très simple. Le public ne lit pas. Il n'est pas très tiré pour la lecture. C'est dommage. Mais... Donc, déjà, c'est difficile de trouver le lecteur et plus le lecteur de la BD. Donc,
d'accord. Alors, justement.
Ici, il n'y a pas de texte.
Ah oui, il y a Grégor qui remarque une page de Tony Sandoval où il n'y a pas de texte et ceci expliquera cela. En fait.
Alors, il y a les scènes quand même qui intéressent tout le monde. Hein.
Ah oui, deux personnages qui s'embrassent, un garçon et une fille qui s'embrassent. Ça ne demande pas de parole en effet.
Alors
non, je regarde cet album, c'est très émouvant, mais vous avez parfaitement raison, le jury, ici, de cette émotion qui est extraordinaire ici. Vraiment, et ce n'est pas comme les autres. C'est une originalité, la personnalité des traits, des dessinateurs, ils expriment l'émotion pure. Il n'y a pas de décor, ce n'est pas stylisé, moderne, bon, c'est pas un truc à la mode. Il n'y a pas la mode, il n'y a que l'émotion pure ici. Ça, je comprends très bien et bravo. De mon côté, je peux seulement vous féliciter de l'excellent choix.
Alors, Sandoval disait donc que vous avez, qu'il n'y a pas de lecteurs en fait au Mexique, dans son pays, qui est un pays assez grand hein, quand même, puisqu'il y a 130 millions d'habitants, 5, si je me trompe.
5-4 millions.
Comparé à la France qui fait 67 millions, je crois.
Oui, oui. Donc,
on avait 10 dessinateurs pour tout Mexique, donc voilà.
Ouais, moi, je me souviens, j'avais vu sur la télé mexicaine des reportages sur les dessinateurs mexicains, et ils parlaient que de comics. Hein. C'était un tel, on le voit faire les Simpsons, un tel, il est chez Marvel.
Mais c'est normal, on avait les États-Unis jusqu'à côté.
Ah oui, ça c'est clair. Vas-y, Thomas.
Alors, j'ai une petite question. Est-ce pour les éditions espagnoles, parce que quand même, la langue Mexique, c'est langue espagnole.
Ouais, mais
vous n'avez pas l'espagnol, ils ont la production quand même assez large.
Oui, mais on avait des problèmes de la distribution. C'est très loin. Il a des DVD espagnols au Mexique, mais c'est vend jusque les petites endroits, les shops spécialisés. C'est pas qu'il a partout. Et c'est un petit peu cher parce qu'il faut décrocher l'Atlantique.
Donc tout à l'heure, Sandoval a dit qu'il y a une chance en fait. Le Mexique n'a pas la chance d'avoir des lecteurs. Est-ce que vous, du coup, membre du jury, est-ce que vous rendez compte finalement que vous avez une chance de lire la BD? Ça vous donne envie d'en lire plus pour soutenir des auteurs?
Moi, chaque fois que je lis la BD, j'ai encore envie de plus de lire des BD parce que ça me ça me met en forme pour lire. Quoi. Enfin, je sais pas,
d'accord.
Ça me dit quelque chose.
Oui. Après, oui, vas-y. J'ai oublié les prénoms, excusez-moi. Vas-y, Éloi.
Moi, je dirais que comme on fait des découvertes sur des auteurs qui sont pas connus en France, ça donne envie d'aller plus loin, de creuser un peu plus pour justement faire d'autres trouvailles qui peuvent être beaucoup mieux que certaines grosses BD de distribution qu'on voit tout le temps dans tous les supermarchés, quoi.
Thomas.
Alors pour la première fois en 4 éditions du prix Actua BD, on a eu des réactions de certains membres du jury qui ont pleuré. Tony, tu sembles avoir trouvé la bonne manière de toucher le public. Est-ce que tu as d'autres retours de ce type-là? Est-ce que... Et surtout, pas forcément la gente féminine, mais tout public. Quels sont les retours en général sur tes albums?
Pour moi, de faire les albums ou les bouquins, c'est comment dire, c'est une manière de communication, c'est de transmission. Voilà, c'est pas un secret, c'est ce que tu fais, qu'est-ce que tu sors de toi. Et voilà, mais je fais pas un BD pour commercial.
Oui, mais est-ce que tu as beaucoup de lectrices qui t'avouent qu'elles ont pleuré quand elles t'ont dédicace?
Ah, je ne sais pas. Non, jamais ça m'est arrivé qu'arrive quelqu'un en train de pleurer. Non. Si je comprends la question.
Il y a Florian Ruby de Actua BD qui est derrière moi qui voudrait poser une question apparemment.
Je prends le relais de notre ami Thomas qui est un peu timide, mais il veut connaître quel est le secret pour faire pleurer les filles.
Ouais, j'en vois trois là à ma droite qui sont, très intéressés.
Pardon, je ne comprends pas la question, là, désolé. Je sais pas, il n'est pas secret. Mais... non, c'est, je dis toujours que je fais les bouquins que je voudrais acheter. Donc voilà, c'est je crois que d'être honnête, ça c'est le plus simple.
Grégor Rosinski est plongé, c'est magnifique.
Plongé dans ce magnifique album de mon collègue.
Bon, il va pas pleurer par contre.
il a une réputation à tenir, tu sais, les Vikings pleuraient, c'était mal vu. Hein. L'homme véritable sont ceux qui pleurent, d'accord.
L'homme véritable, c'est celui qui pleure. C'est une citation ou bien c'est toi qui viens de l'inventer là? Là, je te vois en train de pleurer un peu.
Non, mais ben, c'est avec devant cet album-là, c'est tout à fait évident. Ça.
Alors,
je sais pas si.
Oui, je voudrais poser une dernière question à Grégor. Toi qui as quand même une belle carrière. ça fait 40 ans que tu, devant toi et derrière toi, ça fait 40 ans je crois que tu publies en France. Est-ce que tu as eu des réactions surprenantes de la part du public, comme justement cette jeune fille qui pleure sur un album? Est-ce que tu as eu des réactions qui t'ont vraiment surpris par rapport à Torgal? Est-ce que par exemple tu as des jeunes femmes qui t'écrivent pour savoir où rencontrer Torgal par exemple?
Oui, de temps en temps, oui, mais c'est la plus grande surprise pour moi, que chaque fois quand j'essaie d'améliorer mon dessin, de faire mieux, de me perfectionner, et c'est toujours la public qui dit non, c'est pas bon, c'était première Rosinski était le meilleur. Alors, ça, c'est un phénomène vraiment extraordinaire. Je ne peux pas comprendre. C'était les émotions quand il était jeune, ils ont découvert l'histoire. Ils sont à la recherche des mêmes émotions. Et c'est très, très difficile de retrouver les mêmes. Ils ont grandi, ils ont vieilli, et moi pas. Hein. C'est la musique qui vieillit.
Bah c'est là-dessus qu'on va peut-être terminer avec
du moins pour cette première partie, oui, puisque voilà. Donc je pense que le jury est impatient de pouvoir parler en privé avec les auteurs et qu'on va prendre donc la photographie officielle hein, quand même pour les médias. On va les transmettre à nos amis de l'AFP de Reuters pour ensuite les publier sur le QABD.
Sans parler de l'agence TASS.
Oui, aussi, oui. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent la blague, là, à partir de là. Enfin, bon, vous écoutez Radio Éphémère, donc, et l'onde miroir, c'est le supplément week-end numéro 303, en direct du Conseil Général de la Charente, pour la remise du prix, donc, du Conseil Général des Jeunes, avec Actua BD.
Nous allons rappeler, quand même, l'identité des deux lauréats, donc, pour ce prix Actua BD, Conseil Général des Jeunes de Charente 2012. Donc, ce sont les Mondes de Torgal, Raïssa, de Yann et Surzenko sur une série créée par Grégor Rosinski
et Jean Van Am.
Et Jean Van Am. Et le prix coup de cœur de ce jury de jeunes élus va à Tony Sandoval pour Doomboy aux éditions Paquet. Et on va rappeler l'édition pour les membres de Torgal, bien sûr, c'est Le Lombard.
Et on applaudit.
Et on applaudit, s'il vous plaît. Ah oui, c'est pas évident d'applaudir avec l'appareil photo en main. je te rassure, moi je peux pas applaudir, j'ai la main sur la souris. On va passer une petite programmation musicale. Donc en attendant, donc on remercie tout le monde et on continue tout à l'heure, donc pour la deuxième heure avec l'équipe d'Actua BD. C'est en train de viser joyeusement et tranquillement. On va passer un album de Peace, un extrait de l'album Peace Orchestra par le groupe éponyme, à savoir Who I Am. Thank you. le No Smoking Orchestra d'Emir Kusturica sur Daddy Don't Ever Die on Friday. Et on enchaîne sur Virgin Princess, super pouvoir.
Là. Tu pourrais faire un effort, merde! Tonton nous a demandé de composer un générique sur la Flanders Company.
Ok, mais pourquoi Truman m'a collé avec toi? Franchement, Cindy, si tu t'y connais autant en solfège qu'en mathématiques...
Parce que toi, tu t'y connais en musique de Jones.
Faut, tu lâches ta hache et tu me passes le clavier.
Non mais sérieux, on dirait un gamin de 10 ans qui vient de recevoir son clavier Bon Temps Pax. Vas-y Mozart, laisse-moi faire.
Tu vas voir ce qu'il va te faire Mozart avec sa flûte enchantée.
Ta gueule, chante.
Et toi, c'est quoi ton super pouvoir?
Oh, c'est pas gagné hein.
T'as fini de frustrer mon génie musical?
Mais lâche ça.
Mais Maurice,
viens beau. Mais vous êtes qui, vous?
Bah, c'est notre studio de répète.
Vous voyez pas qu'on est en pleine création, Oust?
Vous voulez pas qu'on vous fasse une petite proposition?
Prends le direct puisque donc là ils sont en train de faire la photo officielle mais néanmoins l'émission continue avec Florian Ruby et Thierry Lemaire. Je vais y arriver.
Est-ce que j'ai mon micro? Je ne suis pas Thierry Lemaire, je suis toujours Thomas et Thierry est à côté de moi.
Pardon, excuse-moi, oui.
Mais je suis là quand même.
Ah, oula.
Oui, on voit la voix de Stentor qui arrive.
Thierry Lemaire. C'est pas le type qui collectionne les statuettes avec des formes qui n'intéressent pas les jeunes.
Non, là, tu confonds encore avec Antoine, mais c'est pas grave.
Antoine Baudet, oui.
Si vous commencez à balancer des dossiers, là, on a du lourd en ce qui vous concerne. Alors, vous direz, vous, jeunes gens.
Nous sommes donc
à la 39e édition du Festival international de la bande dessinée à Angoulême, dans les locaux du Conseil général de la Charente, qui a l'extrême aimabilité et vraiment il se plie en quatre pour nous recevoir. Et nous sommes donc avec le reste de l'équipe d'Actua BD. Donc la première chose, c'est, je voudrais savoir quelle est votre réaction immédiate à la nomination de Thomas Berthelon dans votre comité éditorial.
Oula.
Allez-y, soyez vache, je ne couperai pas.
Qui ça, Thomas? Ah oui, Thomas.
Tu coupes pas le stream, toi. Hein.
Tu nous prends totalement au dépourvu.
Ah non.
Non, non, mais de toute façon, les nominations au comité éditorial sont pensées, réfléchies et mûrement réfléchies. Donc la candidature de Thomas a été acceptée sans aucun problème et il va faire certainement du très bon travail.
En tout cas, c'est bien de souligner que Xavier ne fait pas partie de ce comité de rédaction.
Oui, c'est ça.
Non, mais je voulais une information neutre, pas balancée par tout le monde et tout ça. Donc voilà.
De toute façon, nous allons vous laisser régler vos petits différends en coulisses plus tard.
Ah, penses-tu. Parmi tout ce que l'on a vu, on a vraiment l'impression d'une bande dessinée internationale. Ça, c'est une question que j'aurais aimé parler à Didier, mais là, il est occupé à prendre les photos. Puisqu'on a ici dans les locaux du Conseil Général une double exposition en fait, hein, une sur Arménie, une sur la Turquie. Il y a l'exposition sur Taïwan, et il est question aussi de Corée du Sud, je crois, l'année prochaine, mais ça on a aucune information, donc on peut pas trop en parler. Est-ce que vous êtes allé voir la partie Taïwan?
Oui, évidemment, oui. Non.
Oui, parce que c'est juste en face, ouais. C'est juste en bas de l'espace presse, donc c'est facile. Hein.
Oui, et puis en même temps, ça nous intéresse beaucoup. Moi particulièrement, sur différents supports, je m'intéresse aussi aux comics et aux mangas. Donc
Florian Ruby, répète, quelles sont tes activités aussi en dehors d'Actua BD, hein?
Je sévis entre guillemets également sur des BD ou d'autres supports à l'occasion. Et puis c'est vrai que donc moi je m'intéresse depuis toujours à la fois aux franco-belges et aux autres courants de la bande dessinée, dominants ou pas. Donc les comics, les mangas, la bande dessinée asiatique dans son ensemble, si tant est qu'on puisse lire tout à ce sujet, c'est déjà difficile avec nos titres en francophone, mais on essaye de se tenir au courant. Et également, moi, du fait de mon histoire personnelle, je m'intéresse beaucoup à la bande dessinée italienne et argentine aussi, puisque j'avais des rapports d'amitié avec Hugo Pratt et son école graphique en Italie. Et donc forcément, quand on s'intéresse à Hugo Pratt, on s'intéresse à l'Argentine aussi. Et c'est vrai que avec Hugo Pratt, par exemple, on partageait la passion pour tout ce qui est anglo-saxon. Donc,
attends, c'est bien compliqué là. Tu parles italien, l'Argentine, Hugo Pratt, après là, pour l'anglo-saxon... fait beaucoup de carrefour.
Mais avec Hugo Pratt, il fallait s'adapter à tout ça. Il fallait d'abord être orienté au niveau de la culture vers tout ce qui est anglo-saxon. Films, bande dessinée et littérature. Et donc, à partir de là, le parcours de Hugo Pratt étant international, et puis on sait bien qu'il a commencé à Venise, qu'il a continué en Argentine, qu'il est revenu en Europe et que ses passions se situaient en Amérique du Nord. Donc je sais que ça peut paraître compliqué à première vue, mais en fait il suffisait de suivre. Voilà.
Thierry, de ton côté, je crois que tu sévis toi aussi sur d'autres supports qu'Actua BD.
Oui, alors j'écris pour Actua BD, mais j'écris aussi pour le magazine Zoo.
Et qui est donc un gratuit bimestriel que l'on retrouve dans les principaux lieux d'aisance culturelle.
Qui est distribué dans les FNAC, dans certaines FNAC, dans les Virgin, dans plein de... Les 110 000 exemplaires bimestriels et parfois mensuels sont distribués assez largement dans toute la France et même en Belgique aussi. Et puis voilà, et puis en ce qui concerne la bande dessinée, j'écris aussi pour Hachette, pour les fascicules. Il y a des fascicules Blake et Mortimer avec des modèles réduits de voitures qui ont commencé à être vendus depuis le début de l'année dernière. Et puis là, j'enchaîne avec Astérix. Il y a des statuettes Astérix qui ont démarré là en janvier, vente de fascicules avec des statuettes. Voilà.
D'accord. Quelle a été en fait votre impression sur justement l'expo à Taïwan, le pays invité sur Taïwan?
On a eu pas mal de contacts avec les dessinateurs, notamment lors du vernissage hier. Et c'est vrai que c'est intéressant à suivre, puisque c'est pas la bande dessinée d'Asie la plus connue actuellement. Il y a quelques auteurs qui commencent à être publiés en français. Il y en a d'autres qui commencent à intéresser des éditeurs, de gros éditeurs. Et bah, c'est vrai qu'à première vue, c'est une bande dessinée qui est pas mal influencée par le manga.
Ça, ça semble logique, à la limite.
Il y a une proximité culturelle, évidemment. Et puis, le fait aussi que, faut pas oublier que dans l'histoire de Taïwan, donc, Taïwan, maintenant, c'est une communauté chinoise, etc., mais qui a connu le colonialisme japonais, par exemple, et puis d'autres choses auparavant. C'est donc l'ex-Formose. Et c'est vrai que c'est un carrefour culturel en Asie. Et du fait aussi, aujourd'hui, d'un peu de la domination culturelle japonaise sur la région, on sait qu'ils sont fortement influencés par la télévision japonaise, par le cinéma japonais, l'animation, etc. Donc forcément, c'est une voie naturelle pour les dessinateurs de Taïwan de s'intéresser à ce qui se passe du côté du Japon. Mais pour avoir déjà parlé avec eux ces derniers jours, je sais qu'ils s'intéressent à d'autres choses, donc les comics, donc la bande dessinée américaine, et puis il y a d'autres influences européennes, comme inévitablement Moebius, parce que c'est une référence qui sort tout le temps avec les dessinateurs japonais. Mais c'est vrai que, puisque Taïwan, c'est l'autre Chine, finalement, pour des raisons historiques, puisque ce sont les nationalistes chinois qui sont...
Oui, c'est la République, la République de Chine. Hein.
Et donc, là,
on fête le centenaire, et en ce moment, d'ailleurs, si vous êtes à Toulouse, il y a le festival Made in Asia, où Taïwan est le pays invité. Donc, là aussi, il y a le cinéma, il y a de la cuisine, enfin, il y a plein d'autres choses.
Ouais. Et justement, là, sur Actua BD, je viens de faire un sujet qui concerne, par une chose étonnante, l'influence du dessinateur Sergio Toppi en Chine. Mmh. C'est-à-dire, donc, un grand dessinateur italien milanais. Ouais. Mmh. Et un grand maître, vraiment, avec une maîtrise graphique formidable. Et c'est quelqu'un qui, quand on rencontre les dessinateurs chinois actuellement, donc de Chine continentale, et ben, au début on est étonné, et plus maintenant, d'apprendre que Toppi, avec Moebius, est devenu une de leurs références majeures. Mmh. Alors qu'il est, très peu traduit en Chine, et pourtant ses livres circulent non traduits en Chine, et il est devenu un modèle graphique pour les dessinateurs chinois.
Voilà. Didier, puisque c'est vrai que tu t'occupes de l'exposition pour la partie turque, hein, de la co-exposition turque et arménienne.
Le commissaire.
Oui, tout à fait. Que en plus on a un président qui est américain. Est-ce que ça veut dire que Angoulême redevient un festival de bande dessinée international, même si là c'est pas forcément tout n'est pas complètement dans le programme officiel. Est-ce que cela veut dire que il n'y a pas que la Franco-Belgie à Angoulême?
Déjà, le prix Actua BD Conseil Général des Jeunes en est un exemple, puisque le dessinateur de la BD gagnante est un Russe, scénarisé par un Français habitant en Belgique et sur un personnage créé par un Polonais et un Belge. Et quant à l'autre BD, l'auteur est mexicain. Donc je pense que c'est pas le festival qui devient international, je pense que c'est la bande dessinée qui est tout simplement devenue mondiale aujourd'hui, qui est mondialisée comme l'est la plupart aujourd'hui des phénomènes culturels ou des produits industriels.
De toute façon, il faut que le festival soit international, parce que c'est dans le nom. C'est le Festival International de la Bande Dessinée, donc il doit être international.
Voilà, et puis il l'était depuis très longtemps. Hein. On se rappelle que le deuxième Grand Prix du festival... Déjà, le premier Grand Prix de la ville d'Angoulême, c'est Franquin, qui était belge. Mmh.
Le deuxième, c'est un Américain.
C'est Will Eisner. Mmh. Donc,
et pas n'importe qui, en plus.
Voilà, et un des fondateurs...
On dit au revoir à un Belge qui est... On dit, au revoir, tu n'es plus Actua BD, au revoir. Voilà. On dit, au revoir. Au revoir Nicolas Anspach. Au revoir, tu es aux éditions Paquet avec un auteur formidable. Au revoir Tony Sandoval.
Au revoir Tony. Au revoir Tony et merci.
Merci de ta disponibilité.
Parce que nos amis du jury du Conseil Général des Jeunes ont eu l'insigne honneur d'avoir chacun une dédicace de Rosinski et Sandoval, et ça pèse lourd.
Voilà.
Ça
n'a pas Rosinski qui nous a avoué que ça faisait belle lurette qu'il ne faisait plus de dédicaces sur du papier et pas sur des albums. Hein.
Oui. Donc nous avons les photos.
C'est vrai que c'est une des questions qu'on pourrait poser, c'est la place de la dédicace dans ce genre de festival international avec les chasseurs de dédicaces. Ce qu'on voit avec 5 fois le même album, la liste des 10 prénoms les plus utilisés en France, un siège en toile pour s'asseoir, et maintenant c'est carrément des applications, hein, pour savoir les heures de dédicace et les points de présence.
Il y a des applications pour ça ?
Oui, des applications pour ça, en plus d'avoir des applications sur les cotes des albums. Est-ce que la dédicace, ne risque pas de mourir de ce professionnalisme, en fait, ces reventes d'originaux.
Moi, je trouve ce débat sur la dédicace mesquin est carrément scandaleux.
Bon, d'accord, tu veux que je change de sujet, c'est
ça ? Non. Non, je parle pas de ta question. Je pense que c'est un débat qui est aujourd'hui dans l'actualité, puisque sur ActuaBD, on a une brève qui vient de sortir comme quoi le Salon du Livre de Paris avait décidé de réglementer les dédicaces. Et moi, je trouve que la dédicace, c'est quand même un moment merveilleux, c'est un moment d'initiation, c'est un moment de rencontre avec l'auteur. On est vraiment dans un moment magique, au sens vraiment de la magie du terme, c'est-à-dire que quand on voit ce dessin qui commence à s'animer, parti de rien, et que ça se fait comme ça devant vous, il y a quelque chose de magique. Et donc... c'est très important. Je pense que il y a plusieurs niveaux d'amateurs de bande dessinée. Il y a celui qui lit une bande dessinée tous les 36 du mois et qui aime bien ça, mais sans plus. Et puis, il y a les passionnés. Et ces passionnés-là, il ne faut pas commencer à les dégoûter avec des règlements à la mort moelle-neuve, parce que quelques-uns d'entre eux, ceux qui ont essayé de professionnaliser, c'est plutôt ceux qui font comment dirais-je, qui occupent le terrain et qui avec leurs dédicaces les mettent sur eBay, ceux-là ils se sont professionnalisés, mais la grande majorité des amateurs de dédicaces sont des simples amateurs qui ont simplement le plaisir et la joie de pouvoir regarder devant eux le dessin et si possible de leur univers préféré en train de s'animer. Et je pense que ce discours de presque de criminalisation de la personne qui vient faire une dédicace, je trouve ça à la limite indécent. C'est d'ailleurs même Zo a repris cette cause et il y a là quelque chose de absolument exagéré. Moi je suis presque scandalisé par ce type d'attitude. Alors c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui sont grossiers. Je pense que c'est aux gens qui organisent les dédicaces de veiller au grain et de remettre ces gens-là à leur place, de trouver éventuellement un modus vivendi qui fasse que les auteurs soient respectés. Mais je ne pense pas que ça doive passer par des espèces de règlements et surtout toute une littérature pour criminaliser les braves gens qui simplement essayent de profiter de ce moment magique et qui est, à mon avis, un moment d'initiation important. Je pense que c'est presque l'étape qui fait qu'on devient un très très gros lecteur de bande dessinée. C'est parce que justement on a découvert que derrière un personnage, derrière un univers, il y a un auteur, et cette initiation là elle est extrêmement importante, et la dédicace en fait partie.
Oui, parce qu'après sinon la satisfaction de posséder juste un objet, je vois pas trop l'intérêt. Moi c'est sûr que si on me rapporte une dédicace que j'ai pas vu l'auteur à la faire, je vois pas trop l'intérêt. Et pour souligner ce que tu disais, Rosinski nous a dit tout à l'heure que lui voyait pas du tout par contre d'inconvénient à ce que ces dédicaces soient revendues sur eBay. Il disait bon, après tout c'est pas un contrat de mariage, ça fait partie du jeu, il nous disait. Donc bon, là c'est un débat
Légalement c'est sa signature, hein. Je crois que ça peut l'engager juridiquement. Non,
tant qu'il n'y a pas mis je déclare devoir autant d'argent, je pense qu'il n'y a aucun risque.
Ce qu'il y a effectivement, la réaction de Rosinski est assez finalement est peut-être assez marginale quand même dans le milieu des auteurs. Il y en a un certain nombre qui protestent, qui trouvent que c'est scandaleux,
qui contestent.
Voilà, j'y pense aussi. J'ai essayé de placer des citations de chansons dans toutes mes phrases. Non, mais alors, ce qui est visiblement du côté des auteurs, il y a un souci. Alors, je suis pas sûr que ça criminalise toutes les personnes qui viennent, qui demandent une dédicace de manière très, comment dire, sans commerce, sans volonté de commercer derrière. Mais bon, visiblement il y a quand même un problème, et effectivement il faut trouver la solution, mais alors c'est pas évident.
Non, mais je veux dire, quand il y a un problème, il faut voir quelle est la sociologie du problème. Si ça concerne quelques types, parce que je veux dire, l'hystérie elle est des deux côtés. Effectivement, moi je connais de ces passionnés de BD qui se lèvent, je vous assure, j'en ai rencontré pas plus tard qu'hier, des gens qui se lèvent à 6h du matin.
Mm-hmm. Non, t'en as un au micro, là.
Pour être le premier dans la file, alors c'est un truc que je ne ferais jamais, moi.
Ah oui, c'est vrai que je ne comprends pas. C'est
parce que toi, tu peux aller directement chez l'auteur pour qu'il te fasse une dédicace, c'est ça, le truc.
Non, mais moi, j'ai été comme eux, chasseur de dédicaces, quand j'étais môme, donc j'allais dans les salons et les foires du livre, mais jamais pour me lever à 6h du matin. Donc, c'est vrai qu'il y a une dimension excessive là, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus que les auteurs aient un rapport hystérique par rapport à ça, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas dédicacer, ils ne dédicacent pas, ils ne pointent pas leur nez et l'affaire est réglée.
Tu sais bien qu'il y a quand même aussi la pression de l'éditeur, c'est pas si simple que ça non plus pour certains.
L'éditeur ne peut pas imposer à quelque auteur que ce soit d'aller signer.
Est-ce que ça...
Simplement, l'éditeur préférera qu'il signe, mais si l'auteur est ferme et dit non, je considère que c'est une perte de temps, et c'est tout à fait justifiable, c'est-à-dire que c'est effectivement une perte de temps. Donc moi en tout cas, j'ai connu une époque où on voyait des gens comme Peyot et Franquin faire des dédicaces dans des grands magasins où il y avait trois ploucs qui se pointaient. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est presque des problèmes de riches qu'ils ont, nos amis auteurs, parce que ils ont beaucoup de gens qui viennent les solliciter. Ils devraient être contents. Enfin, je veux dire, les mêmes transposés au Mexique, comme expliquait très bien notre ami Sandoval, ils auraient personne en face. Donc, il y a un moment, il faut un peu de décence. Et j'ai vraiment l'impression que c'est des caprices de stars, quoi.
Est-ce que, parce que ça c'est un truc qui est intéressant à savoir, les éditeurs se retrouvent à Angoulême, ils louent une surface, ils mettent en place donc un stand, ils font venir du personnel, il y a les auteurs qui sont sur place. Est-ce que c'est rentable là pour eux justement de mettre en dédicace des auteurs? Combien ça rapporte par rapport au prix, le prix de leur présence à Angoulême?
Tous les éditeurs vous diront que Angoulême ne rapporte pas d'argent. Parce qu'il faut imaginer d'abord le prix du stand. Je pense que nos amis du Festival International ne le vendent pas gratuitement. Je pense même qu'ils savent très bien calculer le juste prix, et un prix qui est d'ailleurs un peu juste pour les éditeurs. Et
elle est magnifique celle-là.
Du Didier tout craché.
Le sens de la titraille.
Non, c'est vraiment payé. Il faut savoir, enfin, je veux dire, les budgets des grandes maisons d'édition, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Il faut être conscient de ça. Donc, les ventes, elles compensent, mais pas vraiment. Souvent, les stands sont tenus par des libraires qui prennent leur marge dessus. Donc, à l'arrivée, on est à peu près sûr que... Alors, on peut se dire pourquoi ils viennent au festival. Ils viennent au festival pour le public. Ils viennent au festival pour les auteurs, pour que les auteurs se rencontrent, pour que la profession se rencontre et pour qu'il y ait un événement qui médiatise la bande dessinée une fois par an. C'est pour ça. Et donc il y a une dimension, je suis désolé de le dire, un peu altruiste. C'est-à-dire que c'est pour le métier que tous ces gens viennent. Et donc c'est vrai aussi que moi je ne crois pas à la pression des éditeurs. Je pense qu'il y a simplement, de la part des éditeurs, une exhortation à faire partie de ce moment qui est une fête et qui demande le soutien de tous.
Oui, mais y a aussi toute une partie dont on ne parle pas ici, c'est la gestion des droits, c'est la rencontre avec les journalistes pour faire la promotion. Donc il y a aussi ça qui entre en ligne de compte.
Absolument.
Tout le monde est sur le même lieu à un temps donné, et donc c'est pas juste la rencontre auteur-public. Du côté éditeur, il y a beaucoup d'autres choses aussi.
Et puis même, il est très important pour un éditeur et son équipe d'auteurs de rencontrer les autres gens de la profession pour être en phase. Je ne donnerai qu'un exemple, c'est Dupuis à une époque qui a décidé de ne plus venir à Angoulême pour des raisons, ça nous embête, c'est compliqué.
Ouais, c'est une histoire qui est restée 10 ans en plus.
Ça nous prend les mains, etc.
Et qui recommence cette année.
Oui, mais sauf que là, c'est un jeu d'alternance entre les éditeurs du groupe Média Participation. Je crois que c'est momentané. Mais Le fait est que d'être absent, je pense que c'était 14 ans en fait, l'absence de Dupuis, eh bien ça a fait que toute la génération des auteurs de Dupuis s'est déconnectée de l'évolution de la BD du public à ce moment-là. Il y a eu un vieillissement du catalogue. Le grand moment important des années 2000 qui a été l'arrivée des mangas, Dupuis est passé à côté. Le Zep par exemple était mûr pour être chez Dupuis et il n'a pas pu Dupuis n'a pas compris l'importance de Zep et donc c'est un peu le danger, c'est pour ça que le festival a quand même une certaine arrogance, on peut le dire, c'est que finalement tout le monde est obligé d'y aller parce que c'est un moment essentiel de la vie de la bande dessinée.
Oui, vas-y, pardon, non, Florian.
Oui, c'est un moment incontournable pour prendre le pouls de la profession au sens large aussi. Mais c'est vrai que c'est un carrefour aussi. On parlait tout à l'heure des expositions. On a parlé juste de Taïwan, mais cette année, il y a la Suède, il y a l'Espagne.
En
4 jours, non seulement on prend le pouls de la profession, mais on voit ce qui se passe ailleurs aussi.
Il y a l'Europe, il y a une expo européenne.
Oui, évidemment. Oui.
Les 27 pays d'Europe sont représentés. Donc tout ça n'est pas anodin. Et c'est bien aussi que le public soit un peu parti de la fête et un peu l'impression et découvre les coulisses, découvre les auteurs qui sont derrière. Et bon, je pense que c'est pas bien de les criminaliser.
On a pris beaucoup de temps quand même avec les jeunes, et tant mieux, puisque du coup ils ont pu s'exprimer et me parler franchement bien vis-à-vis de leurs auteurs. On est à Angoulême, il y a en ce moment une situation à propos, enfin moi je parlais de guerre Picot-Croline de ce côté-là avec Franck Giroux dans une interview qu'on passera la semaine prochaine.
J'adore ce mot.
Oui, bah voilà, tu l'entendras la semaine prochaine dans l'interview qu'on a fait avec Franck Giroux, cofondateur du festival d'Angoulême. Donc ici on est dans les locaux du Conseil Général. En fait, il y a Angoulême, pour ce qui est du festival, il y a deux grands pôles. Il y a l'organisation du festival lui-même et il y a les institutions qui existent sur place. Comment on en est venu à ce qu'ils en soient au point de se jeter la vaisselle à la figure, que l'organisateur du festival n'annonce pas ce qui se passe au musée?
Alors, moi je recommande à tous nos auditeurs de lire un album magnifique qui s'appelle Lucky Luke, les rivaux de Penfold Gulch, où on voit les O'Hara et les Otimins qui se tirent dessus et on se demande pourquoi, Lucky Luke se demande pourquoi, et en fait il n'y a pas d'explication, il y a juste des vieilles rancœurs, des vieilles rancunes.
Oui, c'est l'arrière-grand-père, mais on ne se souvient plus.
Mais on ne se souvient plus, ils ne savent même plus eux-mêmes, et donc on est dans cette situation-là, et en fait c'est juste des égos, de l'arrogance, des mauvaises compréhensions et une volonté de ne pas aller vers l'autre.
Ceci dit, ici il y a la Charente qui parcourt Angoulême, ce serait plutôt le Grand Fossé.
Absolument, et avec personne qui lâche son pain dans le fromage pour aller le traverser à la nage. Et donc il y a un gars quand même qui a réussi, qui est le Lucky Luke de cette année, c'est Art Spiegelman, qui a décidé qu'il allait faire une expo d'un côté et de l'autre à la Charente, et qui a dit je veux faire un pont entre le festival et la cité de la BD.
Faut que ce soit un Américain qui nous explique ça.
Voilà.
c'est la honte.
Oui, vas-y Florian.
Non, mais c'est très, très juste cette histoire. Et puis, non, mais Art Spiegelman montre le chemin, quoi. Vraiment, c'est bien beau, là, on s'amuse avec nos références BD, etc. Mais la solution, je pense qu'elle est dans la conciliation et puis d'essayer de faire des choses ensemble. C'est toujours la meilleure voie. Et là, on parlait de ces deux expositions, elles sont très complémentaires. Et il y a des choses vraiment intéressantes à voir dans ces expositions. Et du côté de l'un et du côté de l'autre. Par exemple, celle du musée, il y a une chose qui m'a frappé, étant amateur de comics, etc. Il y a ce fonds fabuleux de l'Ohio State University. Ça, Didier, tu peux en parler. Moi, j'ai adoré voir ce matériel.
Oui, parce qu'il y a du Karl Barks, il y a des
magnifiques.
Il y a qui est le dessinateur mythique de Donald. Il y a des.
Surtout d'un Uncle Scrooge. De
Uncle Scrooge, oui, il y a des MAD en originaux, il y a des Art Spiegelman a ramené pour l'exposition permanente des choses absolument superbes.
Oui, puis il y a un grand collectionneur américain qui s'appelle Glenn Bray. qui a prêté des pièces, mais uniques, essentielles. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je lui ai demandé, mais comment vous avez eu tout ça? Parce que c'est carrément les plus belles, les plus beaux originaux du monde. Hein. Il faut être conscient. C'est en ce moment au musée de la BD. Et Glenn Bray m'explique, mais vous savez, à l'époque où j'ai acheté ça, c'était il y a 50 ans, la BD, ça intéressait personne. On trouvait ça vulgaire. À la limite, on les jetait, ces dessins, et je les ai achetés pour quelques dollars. Aujourd'hui, c'est comme s'il avait la Joconde dans sa collection.
Ouais, c'est fou.
Donc,
Moi, je voudrais lancer sur un autre sujet, parce qu'il nous reste que 8 minutes, hein, en fait. L'exploitant du 7e Mégaplex de France, Multiplex de France Cinéma, Alain Robert, donc, qui s'occupe du Gaumont Wilson à Toulouse, dit, là, aujourd'hui, on a J. Edgar, The Descendant, Sherlock Holmes, plus le Beck BD. Bonne grosse journée. En bande dessinée, on regarde l'an dernier, moi j'ai pas vu franchement d'album qui semble avoir dépassé le million en nombre d'exemplaires vendus. J'ai l'impression qu'on n'a plus de très 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 grandes locomotives, qu'en plus aussi, point de vue manga, on a des séries qui arrivent un petit peu à leur fin, qui sont terminées au Japon, et que les éditeurs français, est-ce qu'ils ont une chance de se renouveler en ce moment?
D'abord, dire qu'il n'y a pas de grosse locomotive. En fait,
n'en a pas eu d'aussi grosses sorties. Hein.
Si, on a eu des grosses sorties qui, justement, sont celles de la télévision et du cinéma. La plus grosse locomotive de l'année écoulée, c'est Tintin, qui a vendu 4 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que ça a complètement relancé la machine. 4 millions d'exemplaires, il faut les vendre. Tintin, à lui tout seul, c'est 10% du marché. Cette année. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de grosse locomotive. L'autre grosse locomotive, c'est les Simpsons qui ont vendu, qui vendent 3 millions d'exemplaires en 3 ans.
Ça, oui, mais ça fait plus d'originaux, ça. Ça ne fait plus de séries en nouveauté. C'est du bac catalogue.
Oui, mais donc, Tintin, s'il a vendu autant, c'est parce qu'il y a eu le film. Mais et les Simpsons, s'il a vendu autant, c'est parce qu'il y a la série.
Mais parce ça, c'est les rediffusions, surtout.
Oui, mais c'est bien là. Ça montre une des facettes de la réalité d'aujourd'hui dans la BD. C'est la facette multimédia, cross-média. Et effectivement, aujourd'hui, si on veut des succès, il faut qu'il y ait la télé, le jeu vidéo et le cinéma.
Le média mix dans un mi-japonais.
Voilà. Oui, exactement.
Tout à l'heure, Spiegelman montrait la voie. En fait, les Américains nous montrent la voie avec Marvel et.
Oui, tu vas voir les Vengeurs, comment ils vont vendre l'année prochaine.
Exactement.
J'ai une belle expo, à section comics.
Je voudrais terminer avec une histoire. Je suis désolé, on enchaîne les sujets comme ça. C'est une histoire qu'on avait abordée en renvoyant vers ton article. C'est celle des Locos Gringos. Cette histoire absolument stupéfiante. D'abord, par son anecdote originelle, et ensuite par ce que va devenir l'album à cause d'une d'une erreur d'organisation au sein de l'éditeur.
Il paraît que c'est plus complexe que ça, mais je pense que c'est qu'il a manqué chez Dupuis quelqu'un qui réassure les auteurs. Je pense que la démarche des auteurs est irréprochable. Donc qu'est-ce que Gringos Locos, ça raconte
une
anecdote, c'est-à-dire que on est en 48, la guerre froide commence, et Jigé qui est traumatisé par la guerre, Jigé Joseph Gillin qui est à ce moment-là le mentor des auteurs qui publient dans Spirou, Jigé embarque avec lui Franquin et Maurice, et toute sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses quatre gosses.
Surtout que c'est l'année où les Russes ont fait le premier test de la bombe A, donc il y avait vraiment une peur.
Jigé est persuadé que la bombe A va arriver en Europe et que ça va tomber sur sa gueule. Et donc
à lui.
Et donc il emmène deux meilleurs dessinateurs de Spirou, du journal de Spirou, et lui, et il les emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Pour se protéger de cette guerre.
Oui, Florian. Accessoirement aussi, il chercherait volontiers du travail du côté de chez les Américains, et aussi à retrouver les paysages mythiques des westerns et ce genre de choses.
Absolument, mais il n'est pas
là qu'on voit que les auteurs de BD ont une case en moins.
Qu'ils continuent.
Une case, oui, d'accord, mais ils les compensent pas mal avec leur bande dessinée. Et donc, c'est cette histoire-là, c'est-à-dire que, et qui joue un rôle très important dans l'histoire de la BD, parce que c'est ce voyage de Maurice aux États-Unis qui va lui permettre de rencontrer Goscinny qui à ce moment-là habite New York et qui ensuite va faire les scénarios de Lucky Luke. Ça va totalement bouleverser. Goscinny va revenir des États-Unis et va créer Astérix, et c'est Astérix qui a complètement bouleversé la BD moderne. Donc c'est un voyage mythique en effet.
Et ça va, c'est ça, moi je crois que c'est le mot, c'est un voyage mythique, et pas seulement pour le franco-belge, puisque Joseph Gillin, JG, c'est un passeur au même titre qu'Hugo Pratt entre la bande dessinée nord-américaine et la bande dessinée franco-belge. C'est-à-dire qu'il vient de la même école qu'Hugo Pratt. Les gens ne le savent pas souvent.
Il n'y a pas que JG, il y a Maurice qui est influencé par le graphisme américain, et ces gens-là vont apporter un morceau de l'Amérique dans Spirou. Il faut se rendre compte que le Spirou de 1952 est un Spirou qui a les yeux rivés sur Mad Magazine, et l'enjeu du Spirou de d'Ivan Delporte, ça va être de faire un Mad Magazine pour les mômes, et ça le sera. Et c'est pour ça que Spirou et la bande dessinée belge, au passage, va entrer dans une phase mythique.
Et ce même Mad Magazine qui intéressait tant Goscinny, qui a fait des séjours à New York.
Goscinny était un ami intime de Harvey Kurtzman. Il faut savoir que la mère de Goscinny faisait le Shabbat avec des dîners cachers, et que les amis juifs dont Harvey Kurtzman, dont d'autres grands auteurs de BD américaines, ils venaient manger chez les Goscinny à cette occasion.
Et les Goscinny qui ont vécu en Argentine, hein, comme quoi tout est lié dans la bande dessinée, tout est mondial dès le départ.
Non mais surtout Goscinny.
On y revient.
Surtout Goscinny, parce que Goscinny a eu cette phrase un peu sibylline qu'il a écrite dans Paris Match. Il disait: j'aime beaucoup les étrangers, j'ai longtemps été étranger moi-même.
c'était pas la seule vanne. Je crois malheureusement qu'on va conclure là, non pas parce que la rédaction est pressée d'aller au lâcher de Malabar qui aura lieu dans 3 minutes à 200 mètres d'ici, à l'hôtel de ville.
C'était d'autres marques en Hollywood Chewing-Gum
et fraîche dents.
Et qui se coule.
Et qui se coule, voilà.
Fraîche dents, c'est quoi ça?
Ça m'est sorti comme ça. Vous écoutez Radio FMR et L'Onde Miroir. C'est le supplément week-end avec l'équipe d'ActuABD. Nous sommes donc en direct du Conseil Général. On va peut-être remercier tout le monde. Et ça, là, c'est Thomas qui a le papier des personnes qui nous ont aidés à faire cette émission exceptionnelle. Non, c'est sur c'est marqué là.
Alors, nous allons procéder aux remerciements. Nous remercions bien sûr Philippe Lacueil du service jeunesse innovation du Conseil Général de Charente, Thomas Canton pour la technique du Conseil Général,
qui doit nous écouter dans son bureau à côté.
Oui, tout à fait, qui est l'ancien Toulousain, on le salue. Philippe Pité pour la coordination de Radio FMR, et bien sûr toute l'équipe d'ActuABD qui était parmi nous. Donc Florian Ruby, Didier Passamonique et Thierry Lemaire.
Voilà.
On fait l'amitié de venir partager un peu de
chaque fois que vous voulez parler du 9e art, vous savez où vous trouvez.
Voilà, il y a du sport qui nous est, du sport qui est en régie finale, donc qui va pas faire son émission tout à l'heure, donc qui nous écoute. Vas-y, voilà. Didier.
Et donc je rappelle le site, c'est actuabd.com.
Exactement. Et j'ai un petit cadeau pour toi pour la dernière minute. Maintenant que les enfants sont partis, on peut dire tout plein de gros mots.
Oula.
Gagné, oui, tu le sais, c'est extrait de l'opéra qui a été monté en 2006.
De mix à bord, il faut partir pas l'air de Brest, la mer à bras le corps, dans un élan viril et frais, la chibouze d'orifort, je redeviens le maître à bord, sur terre j'étais un poids mort, la mer et les copains d'abord, sur terre j'étais un poids mort, sur l'eau c'est moi qui suis le plus fort. De rester au port, je rouille, j'ai plus de ressort. Mille sabords, poussez-vous, je sors. Fini la corde au cou, je ne suis pas un toutou. Quand on est un loup de mer, c'est à mer d'être sur terre.
Mille millions de mille sabords, il faut partir de mer de Brest. Il va prendre la mer à bras le corps d'un élan, et il les presse. Il s'élève le cap au-dessus des mille millions de mille sabots. La terre ferme et si on veut faire, mais dans le fond il n'a pas tort. D'ailleurs si évidemment je sens que je serai d'accord.
Adieu.
adieu à ma vie terre-à-terre. Au diable, cette vie de cimetière. Au feu, j'ai jeté mes deux paires de pantoufles. Vive le vent que tu souffles à la proue d'un navire en partance. Fini la morale triste errance des bourgeois qui ruminèrent noyés dans l'eau minérale. Boire des whisky sur l'océan avec modération tout le temps, c'est vraiment géant.
1 000 000 sabords, il faut partir comme un de Brest. On va prendre la mer à bras le corps d'un élan divine et presque. Il s'élève à quatre sud des 1 000 000 000 sabots. La terre ferme, aussi en bête ferme, la mer et les copains d'abord. Le sol sec, aussi en bête sec, le paradis c'est maître à bord.
C'était sur Radio Éphémère et l'onde miroir, donc Radio Éphémère 89.1 MHz à Toulouse, et on continue sur www.radio-éphémère.net et l'onde miroir sur l'onde miroir.fr, la radio cyber schizo. C'était le supplément week-end numéro 303 en direct donc d'Angoulême pour le Festival International de la Bande Dessinée, 39e édition, présidence Art Spiegelman, et surtout en direct du Conseil Général de la Charente avec nos amis à la fois du prix du Conseil Général des Jeunes et nos amis de la rédaction d'Actua BD. Thomas, dernier petit mot peut-être ?
Eh bien écoute,
avant de retourner dans l'enfer du samedi.
Eh bien écoute, c'est toujours une très belle opportunité pour nous, il y a toujours un plaisir très très partagé de venir ici à Angoulême et voir la situation et les conditions d'accueil dans lesquelles nous sommes, c'est toujours un régal. Cette année nous avons eu une météo assez clémente et nous avons bien profité du festival. On continue bien sûr jusqu'à demain.
Voilà, et on remercie 100 000 fois, on ne saurait trop le faire, Grigor Rosinski et Tony Sandoval de s'être déplacés pour faire ce sublime cadeau quand même au conseil, aux membres du jury du prix justement. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, à savoir FMR 89.1. Thomas.
Oui, donc le résumé habituel de l'émission ne sera pas sous format audio, mais vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur le Twitter de Xavier ainsi que le mien, et Chantal en a mis quelques-uns aussi, donc vous pourrez voir ce qui vous avait manqué dans l'émission, les bons mots, les images, etc.
On fera un résumé en cours de semaine prochaine, sinon c'est sur le site actuabd.com bien évidemment, et pour terminer, la semaine prochaine, donc l'interview
de Francis Grou, c'est ça
pour, voilà, ouais. Pour
coin de la mémoire, chez PLG.
Voilà, merci. Donc, qui est l'un des trois cofondateurs de ce qui était un salon et qui est devenu le Festival International d'Angoulême, pour continuer là-dessus. Ciao, bye bye, portez-vous bien. Plus.
À bientôt, ciao.